Salut les rebelles intelligents, je suis actuellement avec un invité de marque en la personne de David J. Salut David.
Salut Olivier.
Donc David, tu es un expert du marketing en vidéo. Ouais. Et je me suis dit que ce serait très sympa de faire une interview où tu vas pas du tout parler de ça.
Voilà, tant qu'à faire, autant voilà, parler
pourquoi,
de
pourquoi s'embêter chose. Parce que donc récemment, tu m'as dit, hey Olivier, je me suis plongé dans les bitcoins, c'est quelque chose qui m'a passionné. Tu as commencé à me parler du bitcoin, de pourquoi le bitcoin, de pourquoi ça allait être génial et tout ça. Et je crois que tu as terminé quelque chose comme une heure après.
À peu près, ouais.
Voilà, donc je me suis dit que c'était un sujet assez, très intéressant qu'on pourrait en parler en vidéo parce qu'on voit que le bitcoin est de plus en plus accepté. J'ai vu un article récemment qui disait qu'il y a des chauffeurs de taxi en Italie qui acceptent le bitcoin. J'ai mon ami Raj qui a passé 30 jours à faire un défi où il ne payait que en bitcoin, qu'il a réussi à payer son loyer en bitcoin. Enfin, on voit que c'est quand même un phénomène qui est en train de se développer. Ouais. Mais en même temps, on voit aussi beaucoup d'articles de presse qui sont assez superficiels. On ne comprend pas trop ce que c'est ni où ça va. Mais toi, alors toi, tu n'es pas le meilleur expert du monde, mais tu as quand même passé du temps, beaucoup de temps à te plonger dedans. Et ouais, tu as sans doute des connaissances qui sont supérieures à celles de la plupart de la population.
Oui, clairement. Ça fait un peu plus d'un an que je m'intéresse sérieusement au Bitcoin. Et je suis infopreneur. Donc, quand tu es infopreneur, classer de l'information, trouver de l'information et parcourir vite un sujet, ça va vite. Et quand ça fait plus d'un an que tu t'y intéresses et que tu y passes quelques heures par jour, effectivement, tu maîtrises un petit peu mieux. Et c'est vrai que Bitcoin, c'est un sujet qui est compliqué pour la plupart des gens parce que c'est une vraie innovation. Il y a une vraie innovation technologique derrière. Il y a une innovation mathématique. Donc, c'est basé sur une invention mathématique qui a eu lieu en 2009. Et c'est tout nouveau, c'est très complexe et donc c'est un sujet.
Alors c'est complexe, mais on va essayer de simplifier justement pour
et
vous.
Ce que je dis toujours au sujet de Bitcoin, c'est que c'est pas la peine de savoir comment ça marche sous le capot. On s'en fiche de savoir les principes mathématiques et tout ça qu'il y a derrière Bitcoin. Ce qu'il faut savoir, c'est un, que ça marche, et deux, à quoi ça sert. C'est un petit peu comme les bagnoles, t'as pas besoin de savoir comment marche l'injection dans ton turbo pour utiliser ta voiture pour aller d'un point A à un point B, et c'est assez simple de comprendre en quoi c'est plus intéressant d'avoir une voiture que d'avoir un cheval.
Voilà, alors donc c'est une image très intéressante. Donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer le Bitcoin comme t'expliquerais à quelqu'un qui est en 1900, qui a vu que des voitures à chevaux toute sa vie, ce que c'est une voiture sans expliquer le fonctionnement du moteur?
Voilà, donc Bitcoin, c'est une nouvelle forme d'argent, c'est une nouvelle forme de monnaie et c'est donc une évolution technologique de cette technologie qu'ont créé les hommes, qui est l'argent. Mmh. Au début, on a démarré avec le troc, on échangeait des chèvres contre des bananes. Le problème, c'est que c'était pas pratique parce que les bananes elles pourrissent, la chèvre, on peut pas échanger une demi-chèvre, voilà. Ou alors elle est en beaucoup moins bon état.
Ouais.
Et puis,
il faut que la personne en face de toi ait envie d'une chèvre au moment où toi tu as envie d'une banane, sa banane, ce qui est pas forcément toujours le cas.
Voilà, il faut pouvoir échanger de la valeur abstraite. Mmh. Le principe qu'a mené à l'argent, c'est de pouvoir échanger quelque chose, une valeur sur laquelle tout le monde est d'accord. Dans le système dans lequel cet argent est utilisé et qui est abstraite et on échange ça au moyen d'un jeton, on va dire, de quelque chose qui est durable, qui est rare, qui va être en quantité plus ou moins délimité, plus ou moins fini. Donc, au début, les hommes, il y a très longtemps, échangeaient par exemple des coquillages alors qu'ils habitaient dans un endroit où on ne peut pas trouver facilement des coquillages. Et puis, très rapidement, on est venu après aux métaux précieux. Il y a pas si longtemps que ça, en fait, à l'échelle de l'histoire humaine, on a inventé l'argent fiat, c'est-à-dire la monnaie en papier.
Oui, donc les billets, tout ça. Puis après, on a.
Et maintenant, on est à l'argent numérique, c'est-à-dire que concrètement, l'argent qu'on a, toi et moi, sur notre compte bancaire, c'est juste des 0 et des 1 qui sont tenus sur un registre par ta banque.
Et avant, jusqu'à les années 70, je crois, tu avais l'équivalent en or de l'argent qui était, émis, et alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'équivalent. Voilà. C'est vraiment de l'argent, c'est juste de la confiance, en fait.
Exactement, c'est juste de la confiance. Et ce que Bitcoin permet, c'est de ne plus avoir besoin, dans un système d'échange de valeur, de ne plus avoir besoin d'un tiers de confiance. Aujourd'hui, on a besoin d'un tiers de confiance. C'est-à-dire que le tiers de confiance, c'est qui? C'est la banque. À l'échelle des particuliers, à notre échelle, à nous, on fait confiance à notre banque. Et de manière plus globale, c'est qui le tiers de confiance ultime? C'est l'État. Mmh. Hein? Et c'est l'État qui émet de l'argent et qui, au travers de ce pouvoir ultime, le pouvoir d'imprimer des billets, d'imprimer de l'argent. Il n'y a plus d'impression aujourd'hui, c'est tout, c'est juste sur des ordinateurs. On dit, on va créer 1 milliard aujourd'hui, et pouf, on crée 1 milliard venu de nulle part. Et ça crée de l'inflation. Et l'inflation, c'est le pire des impôts parce qu'il est complètement masqué, parce que c'est tellement complexe, on ne le voit pas, c'est insensible, c'est petit à petit, les prix augmentent chaque année.
C'est un impôt dans le sens où, effectivement, si l'État emprunte sur le marché, par exemple, 1 million d'euros, disons, et que le prêt est remboursé sur 10 ans, c'est sûr qu'un million d'euros qui est 10 ans plus tard, ça n'a pas la même valeur qu'un million d'euros à l'instant T, puisque ouais. ça a moins de valeur avec l'inflation. Donc oui, ouais. je comprends ce que tu veux dire. D'ailleurs, on sait qu'il y a des gens qui se sont fait flouer, parce que notamment dans la Première Guerre mondiale, la France et d'autres pays ont emprunté beaucoup auprès ouais. de leur population, et après ils ont remboursé ce qui avait été emprunté, sauf que ça n'avait plus tout la même
ça
valeur,
plus rien.
Puisqu'il y avait ouais. une énorme inflation pendant la guerre. Mais bon, ce n'est pas la seule cause, il y a aussi le fait que augmentent les prix naturellement, ouais. et puis on sait que s'ils impriment trop de billets, ils ne peuvent pas trop faire ça non plus. Voilà. Je crois que c'était au Zimbabwe, où il y a eu quelqu'un qui s'est dit, voilà, un dictateur qui s'est dit, allez, on imprime à fond, voilà. et aujourd'hui, ils ont des billets de 3 milliards de dollars.
Au Zimbabwe.
Où tu dois acheter une baguette avec une brouette de billets de voilà. 3 milliards de dollars.
Au Zimbabwe, c'est pas compliqué, c'est littéralement un des pays du monde dont la monnaie vaut moins que de la merde de chèvre et où les gens préfèrent brûler les billets parce que ça coûte moins cher que de la merde de chèvre qui est le combustible habituellement utilisé pour se chauffer.
Donc là, on voit ce qui se passe quand on imprime trop de billets. Donc voilà, on voit quand même qu'il y a un mécanisme de régulation qui fait que le gouvernement peut pas non plus imprimer autant de billets qu'il veut, et bah, mais il peut le faire.
Sauf, okay. et toi, sauf qu'on le sait pas. Au niveau mondial, la réserve fédérale américaine, qui est quand même la monnaie de référence, la réserve fédérale américaine ne rend de compte à personne, ne publie de compte nulle part, et on ne sait pas combien d'argent il crée comme ça, pouf, par magie.
En tout cas, pas assez, vu la dette des États-Unis.
Ouais, mais le problème, c'est que s'ils en créent plus, ça crée cette dynamique infernale de dette dans laquelle les États-Unis sont en train de s'enfoncer depuis longtemps.
Donc si je comprends bien, le Bitcoin, ça a été créé en partie dans le but d'enlever ce pouvoir des États. Ouais. Il y a une certaine attitude rebelle.
Il y a une attitude.
Ça, c'est que tu dis, OK, le Bitcoin, ça va saper un peu, ça s'enlève le pouvoir de l'État. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça donne du pouvoir aux individus?
Ça donne du pouvoir aux individus. Il y a deux niveaux sur lesquels ça donne énormément de pouvoir aux individus. Dans les pays civilisés, il faut quand même se rendre compte qu'on a cette chance d'avoir accès au système bancaire et au système financier international. Je veux dire, si aujourd'hui, moi, je veux ouvrir un compte sur une plateforme Forex et trader des yens ou des yuans chinois ou du dollar, je peux le faire, je peux acheter des actions n'importe où. Ce n'est pas le cas de la majorité de la population mondiale. Il faut bien se rendre compte qu'on est 7 milliards, il y en a, sur les 7, il y en a 4,5 qui n'ont pas accès du tout au système bancaire. Mmh. En Inde, en Afrique, etc. L'immense majorité de la planète n'a pas accès du tout au système financier. Bitcoin donne la possibilité à tous ces gens-là qui, je dis toujours en Afrique, mais c'est marrant parce qu'en Afrique, il y a une meilleure couverture 4G qu'ici. Ils ont tous des téléphones, alors c'est des téléphones bien moins perfectionnés que les nôtres, mais qui sont parfaitement aptes pour utiliser du Bitcoin. Et chacun peut devenir sa propre banque avec Bitcoin.
Alors, OK, donc le Bitcoin, c'est une monnaie électronique qui, effectivement, n'a aucun équivalent physique.
Non.
Quoi qu'il y ait des pièces qui ont été émises, mais c'est pas...
Mais c'était juste des pièces qui comportaient le code d'adresse de qui correspond à l'adresse sur le réseau Bitcoin. C'était juste pour permettre aux gens d'avoir des trucs à collectionner. Mais ça restait du numérique, de toute façon. Le Bitcoin, c'est une monnaie numérique. Ça a été créé à l'origine avec cette idée d'être un équivalent numérique du cash. Un équivalent numérique, donc le cash, c'est tous les billets ont un billet de 100 euros à la même valeur qu'un autre billet de 100 euros. Ça peut s'échanger de la main à la main. C'est plus ou moins anonyme. Du cash, et Bitcoin a toutes ces caractéristiques-là, avec un gros avantage par rapport à des billets ou de l'or, qui est que le Bitcoin, il existe sur le réseau, il existe sur Internet, et tu peux payer quelqu'un, transférer de la valeur, transférer du Bitcoin, comme ça, instantanément. Ce qui est quand même une caractéristique que l'or, par exemple, n'a pas. L'or, c'est lourd, il faut le stocker, il faut le sécuriser. Alors Bitcoin, c'est très important de le sécuriser également, mais l'argent physique, tu as besoin d'une sécurité physique, alors qu'avec du Bitcoin, tu as besoin d'une sécurité intellectuelle. Tu as besoin d'être la seule personne à connaître le mot de passe qui permet d'accéder à tes Bitcoins.
En fait. Portefeuille, ok.
Ouais, voilà. Mais c'est vraiment de l'argent dématérialisé. Et ça, je dis que ça va permettre d'arrêter les guerres, parce que ça enlève complètement le pouvoir au gouvernement d'imprimer plus d'argent. C'est une monnaie qui, contrairement à toutes les monnaies émises par des États, qui sont inflationnistes, les gouvernements peuvent faire rouler la planche à billets. Là, avec Bitcoin, ils ne peuvent pas. Par design, le protocole fait qu'on sait qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoins en circulation dans le monde. Alors, heureusement, on peut les diviser jusqu'à à l'extrême.
On peut payer en 0,001.
On peut payer un millionième de Bitcoin si on veut. Mmh. Mais il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoins en circulation. Ce qui fait que c'est une monnaie déflationniste. C'est une monnaie qui ne peut que prendre de la valeur avec le temps. Plus il y a de gens qui l'utilisent, plus chaque pièce individuelle prend, prend de la valeur. Et puis, comme c'est une monnaie qui dépend de code d'accès, il y a aussi beaucoup de gens, notamment au tout début de Bitcoin, dans, en 2010, etc., qui ont miné du Bitcoin.
Oui, bah alors, juste pour expliquer, parce que donc, les Bitcoins, en fait, ça se trouve en faisant faire des calculs extrêmement compliqués à des ordinateurs, ouais. Hein, avec des équations voilà, qui sont extrêmement complexes. Et c'est très dur d'en trouver, en fait. Ouais. Et plus on en trouve, et plus ça devient dur d'en trouver. Ce qui fait qu'il faut des machines de plus en plus puissantes. Et aujourd'hui, il y a des machines spécialisées dans le minage de Bitcoin.
Il y a des usines à Bitcoin en Chine.
Voilà. Qui sont juste des espèces de supercalculateurs spécialisés.
Pour comprendre comment ça marche, c'est un peu comme BitTorrent. Sur BitTorrent, tu sais qu'au début, l'industrie musicale, il y avait Napster qui permettait aux gens d'échanger leurs fichiers MP3. L'industrie musicale est arrivée et a sabré Napster parce que Napster, c'était un truc central, c'était un serveur central et donc l'industrie musicale, ça leur plaisait pas. Ils ont fait fermer Napster et ça s'est écroulé. Mais derrière est né le protocole BitTorrent qui a enlevé ce point faible qu'avait Napster pour permettre aux gens de s'échanger des fichiers comme ils veulent. Et donc, dans le protocole BitTorrent, chaque utilisateur est un nœud dans le réseau qui constitue le système. Et comme ça, il n'y a plus de point central où tu peux attaquer. Et Bitcoin est conçu exactement comme ça. Mmh. C'est un réseau où tous les utilisateurs de Bitcoin qui participent au réseau et donc peuvent participer à cette grande loterie, entre guillemets, ce n'est pas une loterie, mais il faut travailler, il faut faire travailler ton ordinateur. Et toutes les 10 minutes, il y a 12,5 actuellement nouveaux bitcoins qui sont créés.
Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où personne ne peut faire ça de son ordinateur chez lui.
Non, on peut plus.
Vous pouvez le faire en 2010, mais plus maintenant.
Non, on peut plus du tout miner depuis son ordinateur chez soi. Il faut vraiment des grosses machines et ça coûte très cher en électricité.
Ouais, voilà.
Mais ça reste un business rentable, notamment pour les Chinois qui ont accès à de l'électricité pas chère.
Et pour ceux qui savent, par contre, savoir ce que vous faites. Alors, je reviens quand même sur un truc que tu as dit. Tu dis, si un jour le bitcoin est adopté comme monnaie vraiment de manière importante, ça va empêcher les de faire la guerre. Permets-moi quand même de trouver ça un peu naïf de mon côté, dans le sens où peut-être que ça va empêcher effectivement les États de créer de l'inflation en imprimant de la monnaie, mais ça ne les empêchera pas de lever plus d'impôts s'ils ont besoin.
Oui et non. Oui et non, parce que si tu regardes sur les 300 dernières années au niveau mondial,
après,
toutes les
gens
guerres…
peuvent frauder s'ils veulent, mais eux, ils pourront augmenter les impôts.
On va y arriver. Mais si tu regardes… Au niveau des 300 dernières années, toutes les guerres dans le monde, elles ont toutes été financées par une course à l'inflation. C'est-à-dire que c'est comme ça que l'État a rempli les caisses pour financer l'armement.
Et tu
connais l'adage, quoi. Quoi de mieux qu'une bonne guerre pour remettre l'économie d'aplomb. Et c'est vraiment ça, c'est qu'on a une économie qui part la tête dans le mur, et puis des États qui finissent par déclencher des guerres qui dépassent complètement l'entendement des gens pour arriver à remettre la machine à zéro. Et tu dis, les États peuvent toujours augmenter les impôts. Jusqu'à un certain point, jusqu'au point où la population se rend compte qu'elle est en train de se faire mettre et qu'elle refuse, et où il y a des émeutes. Et pour arriver à financer des efforts de guerre avec juste de l'impôt visible, on dépasserait ce point-là.
Ok, bon, moi je ne vois pas trop en quoi ça peut diminuer les guerres, mais admettons. En façon, on sait qu'il y a beaucoup moins de guerres aujourd'hui qu'il y a 100 ans et que de manière globale, ça c'est assez impressionnant, les dirigeants sont de plus en plus convaincus de l'inutilité d'une guerre. Voilà. Ça vient en partie de la dématérialisation de la création de richesses. Mmh. Je ne sais plus qui disait que, c'est l'auteur de Sapiens qui disait « si les Chinois envahissent la Silicon Valley, il n'y a rien à prendre en fait. » Parce que la richesse de la Silicon Valley, elle n'est pas dans ses ressources, elle est dans ses cerveaux et ses cerveaux, ils vont partir avant que la Silicon Valley soit conquise ou ils refuseront de travailler de manière aussi productive. Donc, on ne peut pas voler la Silicon Valley, on ne peut pas la prendre à l'ennemi. Non. Et du coup, c'est une grande diminution d'une raison de faire la guerre. Bon, ok, donc, mais au-delà de ces plans grandioses, quel est l'intérêt aujourd'hui pour quelqu'un d'utiliser le Bitcoin?
Ok, l'intérêt aujourd'hui, alors, il y a plus un intérêt aujourd'hui à stocker du Bitcoin que à vraiment l'utiliser.
Donc tu trouves que c'est une valeur refuge qui, comme l'or en fait.
C'est une valeur refuge qui est meilleure que l'or. Mm-hmm. Qui est meilleure que l'or parce que tu peux pas transférer 500 kilos d'or de la France à Singapour ou ailleurs aujourd'hui comme ça facilement. Ça te coûterait très cher, ça serait très compliqué.
Mm-hmm. C'est sûr.
Voilà. Alors qu'avec le Bitcoin, tu envoies un message sur ton téléphone portable et c'est transféré. D'accord ? Et c'est vraiment une valeur refuge.
Quel est l'intérêt d'avoir ça plutôt que juste de l'argent sur son compte, du coup, qui lui aussi peut être transféré facilement?
Eh bien, l'argent sur ton compte, non seulement c'est pas vrai, il peut pas être transféré facilement. Mm-hmm. Ça prend des plombes et ça coûte très cher. C'est-à-dire que ça prend des plombes parce que dès que tu fais un virement un peu conséquent, notamment à l'international, il y a des délais qui sont de l'ordre de minimum 5-6 jours, mm-hmm, pour arriver à virer de l'argent. Et tu vas te retrouver avec des frais bancaires pour faire ce virement international qui vont te pomper 5-8% de ta transaction.
Pas forcément, mais il y a des services comme TransferWise aujourd'hui qui permettent de diminuer ça. Mais ok, bon, c'est vrai qu'avec le Bitcoin,
tu t'en tireras jamais à moins de 3-4%.
Et effectivement, il n'y a pas de coût de transfert.
C'est quasi instantané. Mm-hmm. Alors, en ce moment, au moment où on parle, il y a un engorgement du réseau Bitcoin parce que ça a de plus en plus de succès et que le réseau, par design, évolue lentement. Mm-hmm. Il y a une sorte d'engorgement, donc ce n'est plus tout à fait instantané. Il faut compter une heure et demie pour qu'une transaction soit validée. Mais ça reste beaucoup plus rapide que les services bancaires. Et surtout, les frais de transaction sont vraiment ridicules. Si tu veux que ta transaction soit validée vite, c'est-à-dire si tu veux payer quelque chose pour faire en sorte que ça aille vite, tu vas payer, oula, 1 dollar pour ta transaction. Que ta transaction fasse 10 dollars ou qu'elle fasse 3 millions de dollars. Mmh. D'accord ? Donc, ça te permet de transférer de la valeur instantanément dans le monde. C'est neutre, c'est-à-dire qu'aucun gouvernement n'a le moindre pouvoir de contrôle sur Bitcoin. Si aujourd'hui ou si demain, la France et les États-Unis et l'Australie décident de dire « Bitcoin, c'est illégal », c'est fini, on veut plus, on va mettre en prison tous les gens qui utilisent Bitcoin. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer juste que les pays qui ne déclareront pas ça illégal vont avoir un boom dans leur immigration de gens qui ont les moyens. Et de toute façon, il y aura une fraude phénoménale parce qu'on ne peut pas stopper le protocole Bitcoin. C'est juste un protocole de communication. Mm-hmm. Et par exemple, je déconnais l'autre jour en te disant, mais du Bitcoin, je peux t'en envoyer par Skype codé en smiley si j'ai envie, quoi.
Ah oui.
On ne peut pas arrêter un protocole. C'est vraiment un protocole. Fermer Bitcoin, c'est aussi impossible que de fermer BitTorrent. Hmm. C'est un protocole mondial, distribué.
Ça paraît peu probable que les pays développés l'interdisent, effectivement. Il est déjà trop tard, en fait.
Non,
le vase de Pandore est ouvert.
Ce qui est hallucinant, le truc le plus hallucinant dans Bitcoin, c'est que ça a fonctionné. Hmm. C'est-à-dire que c'était un projet idéaliste, ça a été créé par des crypto-anarchistes, donc des mecs un petit peu allumés quand même, avec une vision vraiment anarchiste, qui cherche à tout décentraliser. Et on ne sait pas par quelle magie ça a pris. L'effet boule de neige,
c'est fait. Peut-être qu'il y a un vrai besoin chez les gens d'avoir un truc pas contrôlé par le gouvernement.
Je pense qu'il y a un vrai besoin, que c'est juste une anomalie due à notre histoire. On est très jeune dans l'histoire de l'humanité, si on regarde, surtout dans l'histoire de l'humanité avec de la technologie. Mm-hmm. Ça s'est passé dans les dernières fractions de secondes de l'histoire de l'humanité, l'arrivée vraiment de la technologie. Et je pense qu'il y a un vrai besoin, c'est une anomalie que l'argent soit émis et contrôlé et manipulé par les gouvernements. L'argent, ça sert à échanger de la valeur d'individu à individu. Et c'est juste naturel qu'on arrive à un système où l'argent est contrôlé par les individus et absolument pas par des intérêts des conglomérats, des États, des compagnies, etc. Et c'est ça que Bitcoin permet d'arriver.
Mais donc aujourd'hui, la seule valeur vraiment que peut en retirer quelqu'un, c'est juste pour stocker comme valeur refuge.
Ouais, c'est une valeur
refuge. Parce qu'il y a quand même une volatilité énorme aujourd'hui, c'est le problème.
Il y a une volatilité énorme, c'est-à-dire que typiquement, c'est vrai que ça peut arriver, il peut y avoir des jours où Bitcoin gagne ou perd 20% de sa valeur.
Donc c'est quand même
énorme, ça fait très peur à un investisseur. Maintenant, l'investisseur malin regarde les courbes d'évolution de Bitcoin depuis le début de sa création, et ce qu'on s'aperçoit, c'est que Bitcoin, depuis 5 ans, a systématiquement, chaque année, été le meilleur placement possible.
Pour l'instant. Mais alors, encore une fois, on sait bien que les performances passées ne...
Je ne peux pas, absolument pas conseiller à qui que ce soit d'investir toutes ses économies dans Bitcoin. Ça serait de la folie furieuse. Donc, n'investissez dans Bitcoin que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.
Oui,
ça, c'est hyper important.
Base,
Mais pour te dire à quel point, j'y crois, on a récemment, ma compagnie, on a obtenu un statut qui nous permet de ne plus avoir de TVA, de ne plus être assujetti à la TVA sur nos ventes de formation, qui sont la rentrée principale de ma société, ce 20% de gain, je compte le placer en Bitcoin.
D'accord.
Pour te dire à quel point j'ai confiance dans le...
D'accord, donc mettre quelques pourcents par mois dans Bitcoin, c'est intéressant. Mais je pense qu'on est arrivé effectivement à un moment, à un point de bascule, où on se dit que ça y est, c'est trop tard. Les portes sont ouvertes.
Et alors c'est
et
ça
il y a de plus
génial.
En plus de gens qui l'utilisent, c'est ça qui est impressionnant.
Je pense qu'on est... Juste avant, je ne peux pas dire quand ça va se produire, mais on est juste avant le point d'inflexion où Bitcoin va vraiment décoller. Pour moi, Bitcoin, en 2025, au plus tard, vaut 30-40 000 euros par pièce.
Alors que là, on est à peu près à 1
300 aujourd'hui. Et aujourd'hui,
ça reste une spéculation.
Oui, bien sûr. Mais c'est le plus haut historique.
Voilà, c'est ton interprétation.
Oui, bien sûr. Voilà. Et je suis absolument pas un expert en finance. C'est vraiment pas mon genre de truc. Je suis pas un trader. C'est vraiment pas ma tasse de thé.
En tout cas, c'est un investissement risqué, il faut quand même le dire.
C'est un investissement risqué, mais intéressant. Et,
mais je pense que quand on vise le long terme, moi j'avais mis des bitcoins à l'époque où c'était encore possible avec ces ordinateurs. Je dois en avoir 2,3, quelque chose comme ça. Voilà, c'est, je les garde. Moi, je me suis dit, c'est marrant. Je vais garder ça pour 20 ans. On verra bien ce qui se passe. Et pareil, j'ai acheté à l'époque pour 600 euros de Litecoin en début 2013, je crois. Et aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus. Il faudrait que je regarde combien exactement. Oui, parce que donc, on parle que du Bitcoin. Il y a d'autres crypto-monnaies.
Il y a tout un tas d'autres.
On ne va pas en parler ici parce que ça ferait une vidéo trop longue. Mais voilà, sachez qu'il y a aussi d'autres monnaies que le Bitcoin. Mais c'est le Bitcoin qui est vraiment le plus utilisé.
Le Bitcoin représente 85% de l'argent qui a été placé et investi dans les crypto-monnaies.
Donc, c'est vrai quand même, il y a un intérêt si on est beaucoup à l'international et que, parce que c'est une monnaie universelle. Il n'y a pas de frais de change et tout ça. Le problème, c'est quand même sa grande fluctuation qui fait que dès qu'on veut l'échanger en argent réel, on ne sait pas quelle valeur ça va avoir à l'instant T.
Sauf qu'on sait que ça vaudra à peu près le double de ce que ça valait l'an dernier.
Pour l'instant, c'est ce qui s'est passé, mais on n'en sait pas. On ne sait pas si peut-être que l'année prochaine, il y aura un gros crack.
Il y a déjà eu des gros crashs. En 2013, il y a eu un énorme crash. Bitcoin était monté à 1000, était parti de $300 et était monté à 1200 et s'est ratatiné la gueule après, sauf qu'il s'est ratatiné à 400. C'était quand même plus qu'avant le pic et la chute. Et ça, c'est le mouvement qu'on observe. Bitcoin est sur une pente ascendante. Ce qui n'est pas étonnant, vu que par nature, c'est une monnaie déflationniste. Il y a de plus en plus de monde qui en veut, qui l'utilise. Et il n'y a pas de plus en plus de Bitcoin.
Donc, oui, mais comme tu dis, après, c'est, si demain le Bitcoin vaut 40 000 euros au lieu de 1000, c'est juste que les gens paieront en fraction de plus en plus petite de Bitcoin, oui, quelque part.
Mais si toi, tu les as achetés aujourd'hui.
Oui, on est d'accord. Bon. D'accord. Voilà. Ouais. Bon. Alors, concrètement, quelqu'un qui est intéressé par Bitcoin, qui se dit « Ah ouais, ça a l'air intéressant », quelle est la première chose à faire?
Ok. Là, moi, ce que j'adore avec Bitcoin, c'est que c'est une super école de sécurité informatique. Mm-hmm. Parce que si tu connais ton mot de passe, tu as tes clés, c'est tes Bitcoins. Si tu n'as pas les clés, si tu les perds, si tu fais que la moindre bêtise ou si tu te fais hacker, que tu te fais pirater et qu'un hacker chope ton mot de passe, c'est plus tes bitcoins, d'accord ? Donc, pour avoir le contrôle vraiment de tes bitcoins, il faut avoir le contrôle sur tes clés. Et ça, c'est une super école de sécurité informatique. Moi, j'utilise une solution. On peut toujours stocker ces bitcoins. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut imprimer une feuille sur papier avec la clé d'accès à tes bitcoins. Et comme ça, tes bitcoins ne sont plus sur le réseau. Ils ne sont plus accessibles par le moindre pirate.
Tu peux supprimer du réseau et le mettre dans ton…
Ils existent sur le réseau. L'adresse bitcoin correspondant à tes bitcoins existe toujours. Mais pour pouvoir faire quoi que ce soit avec cette adresse, il faut la clé d'accès. C'est un système qui marche comme les emails PGP. Tu as une clé publique, une clé privée. C'est toi qui dois contrôler ta clé privée. Et ta clé privée, c'est ton coffre-fort. C'est-à-dire que si tu la donnes à quelqu'un, si tu te la fais pirater, c'est fini. Tu te fais voler tes bitcoins en deux temps, trois mouvements. Et donc, c'est une super école pour apprendre à sécuriser. Moi, la solution que je recommande, que j'utilise personnellement, c'est que j'ai un petit appareil qui est de la taille d'un porte-clé, qui est un mini-ordinateur, en fait. Sauf que c'est un ordinateur qui ne peut pas se connecter au réseau, auquel il n'y a pas moyen d'accéder. Non, je ne l'ai pas pris. Je te l'ai montré hier.
C'est une sorte de portefeuille numérique blanc.
C'est un petit porte-clé numérique qu'on branche sur son ordinateur et qui ne communique pas vraiment avec l'ordinateur, qui ne fait que prendre ce qu'on veut faire, la transaction qu'on veut faire en Bitcoin, la signer avec votre clé et renvoyer la transaction signée. Donc, il y a une cryptographie complète, il n'y a pas d'autres échanges entre ton ordinateur et ce petit appareil. Et ça permet juste de signer les transactions, ce qui te permet de ne pas avoir à t'embêter à avoir un ordinateur ultra sécurisé. Parce que de toute façon, aucun ordinateur n'est suffisamment sécurisé.
Tout le monde se pose la question, là, qu'est-ce qui se passe si tu perds ta clé?
Alors, si tu perds ta clé, tu as ce qu'on appelle une phrase mnémotechnique, c'est-à-dire une phrase de 24 mots qui est ta clé de génération de Bitcoin qui te permet de récupérer tes clés et tes accès. Et donc, c'est ça qu'il faut être le seul à connaître, en fait.
D'accord.
Il faut garder ta phrase mnémonique, l'avoir en tête.
Donc on peut perdre sa clé, on ne va pas perdre toute sa fortune.
Non, exactement.
Si j'ai 10 000 Bitcoin qui valent 10 000 euros.
Mon petit appareil, là, le trésor, j'en ai plusieurs. Pourquoi? Parce que je voyage beaucoup et que je n'ai pas envie de me faire demander par un douanier c'est quoi ce truc. Donc, j'en ai un ici, j'en ai un aux États-Unis, j'en ai un partout où je vais. Et comme en fait ils ont été initialisés avec la même clé, c'est comme si c'était des appareils synchronisés, en fait. C'est juste un appareil qui te permet de signer électroniquement, de faire la signature cryptographique de ce que tu veux faire.
Et au moment où tu signes, tu tapes un mot de passe. Et tu me disais, ce qui est génial, c'est qu'il y a un déni possible.
Oui.
Alors ça, c'est très important en sécurité. Qu'est-ce que c'est un déni possible? C'est que, voilà, imaginons que vous cryptez un disque dur, par exemple, avec un méga mot de passe. Génial, jusqu'au moment, donc ça vous protège, effectivement, si vous perdez votre disque dur, si on vous le vole, etc. Ouais. Le problème, c'est si vous êtes dans une situation où on va vous forcer à révéler le mot de passe.
C'est ce qu'on appelle l'attaque à la clé à molette.
Voilà, c'est ça.
Donc, c'est la meilleure attaque de pirate.
Vous avez un agresseur ou autre, qui essaie de vous forcer à révéler le mot de passe. Du coup, la protection, elle ne sert plus à rien. Mais avec le déni possible, on résout le problème. Alors, explique-nous
un petit peu
ce que c'est.
C'est-à-dire que sur ce petit appareil, effectivement, quand tu le branches sur ton ordinateur, tu dois taper un PIN à 4 chiffres, alors qu'il est ultra sécurisé parce qu'il n'est pas affiché sur l'écran. Enfin, il y a tout un tas de mesures qui ont été prises pour que ça ne soit, soit vraiment pas forçable comme mécanisme. Mais tu dois taper ton PIN et ensuite tu dois taper un mot de passe pour accéder à tes portefeuilles de Bitcoin. Ce qui est génial avec cet appareil, c'est que si tu es dans une situation où on essaye de te contraindre de donner ton mot de passe, tu peux donner un autre mot de passe qui va arriver sur un portefeuille de Bitcoin sur lequel tu auras mis quelques centimes.
Voilà, donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que vous avez en fait deux niveaux de cryptage, un avec votre vrai mot de passe qui cache vraiment les trucs que vous voulez cacher et un autre avec un faux mot de passe qui cache des trucs que vous êtes prêt à révéler si on vous force à le révéler. Voilà. Et le truc, c'est que l'assaillant ne peut pas savoir, il ne peut pas non plus en analysant votre disque ou en l'occurrence là la clé Bitcoin, il ne peut pas savoir s'il y a deux cryptages ou un seul. Ouais. Et du coup, vous pouvez, il sait qu'il y a cette possibilité de le faire, mais il ne sait pas si vous l'avez fait. Et il ne peut pas le prouver, en fait.
Ouais.
Donc, ça vous protège vraiment beaucoup. Si vous êtes dans l'obligation de révéler votre mot de passe, vous révélez le mot de passe que vous voulez bien révéler, qui va révéler des trucs dont vous vous foutez, et vous êtes protégé. Voilà.
Et ça m'amène à un truc dont on parle beaucoup sur Bitcoin. Une fausse croyance au sujet de Bitcoin, c'est que les gens pensent que Bitcoin, c'est anonyme. C'est le truc le moins anonyme du monde, pratiquement. C'est-à-dire que c'est pseudonyme. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, mon adresse Bitcoin, là où j'ai mes fonds Bitcoin qui sont stockés, elle n'est pas liée à mon identité dans la vraie vie. Donc, effectivement, on peut considérer que c'est anonyme. Par contre, la façon même dont est conçu le protocole Bitcoin, c'est le contraire de l'anonymité. C'est-à-dire que pourquoi Bitcoin permet de se passer du tiers de confiance ? Parce qu'en fait, le registre des transactions Bitcoin, donc toi, quand tu fais une transaction avec ta banque, si je t'envoie un virement pour te payer une facture, tu vas avoir un registre tenu par la banque sur lequel va apparaître cette transaction. D'accord ? Et elle est tenue par un tiers de confiance. Dans le protocole Bitcoin, en fait, le registre, il est public. Il est public et il est distribué sur tout le réseau. Tous les membres du réseau tiennent à jour une copie du registre. Et
tout le monde peut voir les transactions.
Donc, tout le monde, on peut remonter
par
toutes les transactions.
Ce n'est pas des noms, ce sont des adresses.
Mais voilà.
Il faut savoir qui est derrière l'adresse.
Voilà. Mais à partir du moment où, par exemple, je ne sais pas si je veux.
Tu t'achètes un truc sur Amazon, admettons, le jour où ils acceptent les bitcoins, bon, bah, Amazon a ton adresse, il sait que ton adresse, cette adresse-là, c'est toi.
Donc, si
quelqu'un est capable d'enquêter auprès d'Amazon, ils vont découvrir le nom.
À partir du moment où tu crées un point de contact entre ton identité réelle et ton identité Bitcoin, là, à ce moment-là, tu es complètement traçable. Donc, il ne faut pas croire que Bitcoin est complètement anonyme. De toute façon, j'encourage surtout pas les gens à utiliser Bitcoin pour faire des trucs illégaux, c'est pas l'idée. Moi, je pense que c'est l'intérêt principal de Bitcoin aujourd'hui, il est dans le stockage de valeur, ce que tu appelles la valeur refuge.
Dans la spéculation aussi.
La spéculation, parce que ça ne fait que gagner. Et il est avant tout pour moi philosophique, c'est-à-dire que oui, effectivement, je veux faire en sorte d'utiliser Bitcoin le plus possible pour participer au mouvement et participer au fait d'arriver à ce moment où il y aura un effet boule de neige et où il y aura une adoption massive de Bitcoin. Et on en est peut-être loin, je veux dire, vraiment une adoption massive de Bitcoin au niveau mondial où ça devient la monnaie unique mondiale. On en est loin, c'est une évidence. Mais par contre, une adoption de Bitcoin suffisante pour que ce soit possible de vivre 100% en Bitcoin, on n'en est pas loin du tout.
A priori, c'est déjà possible. Ouais.
C'est déjà possible.
Rara, je l'ai fait pendant 30 jours.
Ouais.
C'est bon. C'est pas forcément facile d'acheter sa baguette de pain avec, mais
c'est pas vraiment possible dans le sens où ton boulanger il accepte pas le Bitcoin. Par contre, il va accepter une carte de crédit.
Mais il y a de plus en plus
tu as des cartes de crédit liées. Il y a de plus en plus de business.
Et on voit que ça commence à venir, c'est fou.
Ouais. Il y a un truc, truc tout bête. Vous voulez économiser 15% sur Amazon, vous allez sur un site qui s'appelle Purse.io, P-U-R-S-E.io. Si vous avez des Bitcoins, en fait, vous pouvez poster sur ce site-là la commande que vous voulez faire sur Amazon. Et il y a des gens qui veulent acheter des bitcoins, qui vont passer la commande, vous la faire envoyer, et récupérer les bitcoins que vous vous mettez. Et pour ça, ils sont prêts à payer 15% de, 15% de bénef pour vous. Donc, en fait, votre commande va vous coûter 15% moins cher. Ouais. Ça, c'est,
sauf si tu paries sur l'avenir et tu penses que dans 10 ans, ça va valoir beaucoup plus.
Personnellement, je n'utilise pas Purse.io.
Parce qu'il y a cette fameuse histoire du gars qui a payé une pizza avec des bitcoins qui aujourd'hui vaut ça 10 millions, c'est
plusieurs millions de dollars. le mec a
parce que au début, ça valait rien du tout, les bitcoins.
Pour 10 000 bitcoins.
Oh purée.
À 1300 euros pièce aujourd'hui.
Ouais, c'est toujours pareil.
Ça fait cher la pizza. Voilà.
C'est comme pour ceux qui ont vendu les bitcoins avant que ça commence à exploser. Mais bon, ça c'est toujours pareil, hein, on ne peut pas prédire l'avenir. Ok, donc pour les personnes alors qui veulent démarrer, est-ce que tu as un livre peut-être à recommander ou un site web?
Alors,
ou...
il faut lire l'anglais. Je pense qu'il y a des traductions françaises qui vont pas tarder à arriver. Il y a un livre de Andreas Antonopoulos qui s'appelle The Internet of Money. Donc le postulat du livre, c'est que Bitcoin, c'est pas la monnaie d'Internet.
Mais est-ce
c'est
que ça suffit pour démarrer Bitcoin ou...
Ouais, ouais.
C'est la philosophie.
Non, ça suffit pour comprendre le truc de façon suffisante. Et ensuite, pour démarrer, moi, ce que je conseille aux gens qui veulent vraiment démarrer, c'est d'acheter le petit appareil que j'utilise parce que c'est le seul moyen d'être vraiment tranquille au niveau sécurité. Ça s'appelle Trezor, T-R-E-Z-O-R.
Bon, vous avez mis la référence en dessous.
Voilà. C'est d'acheter ça, ça vaut une centaine de dollars, cet appareil, pour être tranquille avec les aspects sécurité et faire ça bien. Et ensuite, d'acheter leur premier Bitcoin, soit en allant sur localbitcoin.com et en allant rencontrer quelqu'un dans leur ville qui est passionné par ça et qui va leur vendre un bitcoin au tarif du marché en échange d'argent, tout simplement, ce qui permet en plus de rester sans point de contact au niveau identité, soit si vraiment les gens veulent investir, de s'enregistrer sur un échange. Donc le bitcoin est tradé sur des échanges comme exactement comme en forex ou dans tous les autres sites de trading. Il y a quelques échanges, donc les plus gros, les plus connus, c'est Coinbase aux USA, coinbase.com. On a Kraken, K-R-A-K-E-N en Europe. Il y en a quelques-uns, mais si vous tapez échange Bitcoin, vous allez voir toute une liste. Faites attention, si jamais ça vous intéresse de démarrer là-dessus, de trader uniquement avec un site sérieux qui a fait ses preuves et qui est là depuis un certain temps, parce que c'est quand même aussi un domaine qui est nouveau.
Il y a un peu de tout.
Il y a vraiment de tout dans Bitcoin. Il faut savoir que c'est une nouvelle technologie financière. Donc, qui dit nouvelle technologie dit très intéressant.
Il n'y a aucune régulation.
Aucune régulation. Très intéressant pour les gens qui ont des affaires illégales. Bitcoin a longtemps été associé, ça va mieux, mais ça a longtemps été associé avec les dark markets sur Internet, avec les trucs sur le darknet et les échanges de drogue et compagnie, effectivement. Pourquoi ? Parce que c'est dingue, mais les gens qui sont hors la loi, ils ont tendance à utiliser les trucs les plus efficaces. Voilà. Mais moi, je vous incite à vous y intéresser et en acheter quelques-uns, ne serait-ce que pour en avoir, pour voir comment ça marche, parce que ça va vraiment déferler. Et moi, je crois qu'on est vraiment juste avant le point d'inflexion en termes de prise de valeur. Moi, je mise sur un Bitcoin qui aura dépassé les 10 000 euros en 2020.
Ok, bon, merci David d'avoir partagé tout ça avec nous. Hein. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez donc les premières ressources pour démarrer. Puis après, sinon, vous tapez Bitcoin dans Google et vous commencez votre exploration tout simplement. Hey ! Merci d'avoir écouté ce MP3 qui est tiré d'une vidéo publiée sur la chaîne YouTube. Donc comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous aimez écouter ces podcasts sur iTunes, eh bien, allez tout simplement sur iTunes pour noter cette émission. Voilà, donnez-lui une note si vous l'appréciez. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez voir les vidéos originales desquelles sont extraits les podcasts en allant sur olivier-roland.tv. Hein, olivier-roland, R-O-L-A-N-D.tv. Merci d'avoir écouté ce podcast. À demain pour de nouvelles aventures dans le prochain.